Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumani.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Quelles sont les règles du mariage? Quelles sont les différentes étapes à suivre dans les traditions et dans les religions? Comment les hommes et les femmes vivent leurs relations? Où allons-nous avec les mariages et que faut-il pour améliorer la vie des conjoints? Le Grand Dialogue de Studio Tamani pose le débat sur ces questions et en partenariat avec le programme d'engagement civique. Pour répondre à toutes ces questions, nos invités sont Amadou Diadje Sango, homme de culture, Mariam Ina Kanouté, coach de vie, Oumou Touré, coordinatrice de The Global Media Company 2 and FGM, qui est une cellule de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines, Hamidou Diallo, imam et islamologue. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Mariam Maïga à la présentation. Le Grand Dialogue. Monsieur Sango, pouvez-vous nous expliquer les étapes du mariage?
Merci, Mariam, de l'honneur que vous me faites pour me recevoir sur votre plateau. Les étapes du mariage varient suivant les différents milieux. Chaque milieu a ses coutumes et ses traditions. Mais de manière générale, il y a les principes généraux qui régissent le mariage dans la plupart des milieux. Dans la société traditionnelle, le mariage n'est pas une affaire d'individu. C'est une affaire de famille et de société. Ce n'est pas deux personnes qui se marient, mais c'est deux familles qui se lient par un lien qu'on appelle le mariage, parce que nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons les mêmes dignités, nous partageons les mêmes vertus. Nous sommes sur un espace de vie où on a appris à se connaître et à se pratiquer. Je vois quelque chose qui m'intéresse dans ta famille à cause des valeurs que développent les femmes, les vertus que vous présentez, qui sont les mêmes que chez moi. Donc, je viens demander quelque chose dans une famille au patriarche. Ma demande est supportée par les hommes de culture qu'on appelle les griots, les communicateurs traditionnels qui ne sont pas des hommes de caste. C'est ça le lien de notre société. Donc, un messager vient porter la demande, présenter la demande, qui sera étudiée en deux ou trois étapes. Chez les Bambana, on dit ananatoug aussi, c'est-à-dire vérifier s'il n'y a pas un prétendant qui soit arrivé avant nous. Ensuite, la première colla pour faire l'annonce. La deuxième colla pour réunir le conseil de famille. Et la troisième colla pour libérer la femme. C'est à peu près le même schéma. Dans le milieu sonray, on ne vient pas parler la bouche, comme on dit, la bouche nue à ses beaux-parents. Pour prendre la parole, tu présentes le taureau. Ça annonce tes intentions. Dans d'autres milieux, tu n'as pas besoin de ça, mais tu envoies complètement ça. Donc la première étape, c'est de demander la main. Le conseil de famille se réunit pour voir, étudier, enquêter avant de donner la main. Voilà la première étape. La deuxième étape, c'est les femmes. Les femmes. Quelle que soit l'appellation, que ça s'appelle Minankulonsongo, que ça s'appelle Woroba, que ça s'appelle Guinéhei, que ça s'appelle Gomni, suivant le milieu, c'est toujours la part des femmes. Et c'est les femmes qui posent cet acte-là. À ce moment, dès que les hommes ont donné leur aval, techniquement, le mariage est consommé.
Alors, Mariam Ina Kanouté, est-ce à dire que dès qu'il y a partage de couleur ou dès qu'il y a cette demande, l'homme et la femme sont déjà mariés, ils peuvent se considérer comme mari et femme?
Bon, lui, il est vraiment en train de parler du point de vue traditionnel. Ce n'est pas vraiment mon domaine. Et j'estime qu'aujourd'hui, dans la vie moderne, on estime que quand le mariage n'est pas fait, on appelle ces préliminaires traditionnels les fiançailles. Et donc, normalement, jusqu'à ces dernières années, ça ne donne pas le droit à la femme de rejoindre son mari. Donc, pour moi, j'estime que ce n'est pas encore consommé.
Alors, on remarque que chez certaines communautés, la femme peut être empruntée à son mari comme ça, signé. Et de plus en plus, on voit ça du point de vue religieux, Imam Diallo. Comment cela peut se faire? Est-ce que c'est permis d'ailleurs?
Là, on peut appeler ça impossible.
C'est pas possible, on ne peut pas emprunter une femme.
Kamso Singe, il le dit souvent.
C'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. Il y a une question de Moutaha qui était un certain moment permise. Mais après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis terme à cette demande-là. Comme Sango vient de l'évoquer tout de suite là, c'est l'union de deux familles. Ça ne peut pas être un contrat ou bien... C'est impossible. Quand Sayyidina Omar est venu, cette question de Mouta, c'était terminé. Ça, c'est impossible.
Et donc, quand est-ce que la religion musulmane considère un homme et une femme étant mariés?
Voilà. Il faut les témoins. Il faut l'accord du mari et de la mariée. Il faut la dot. Et ce que Sango vient d'évoquer tout de suite, nous, chez nous, les malikites, les talibés de Cheikh Omar Tall, nous, tant que l'imam n'a pas effectué le mariage religieux, chez nous, il n'y a pas de mariage.
Donc, sur ce point, je vous invite à écouter le professeur Joseph Camara,
d'accord,
qui est le président du Conseil national de l'Église évangélique protestante du Mali, sur les règles du mariage dans la religion chrétienne.
La Bible commence par les fiançailles. Et qui parle de fiançailles parle de consentement des deux groupes de parents, parents de fiancés, parents de la fiancée. Donc il y a ce consentement des parents. Et quand ce consentement des parents est acquis, les fiançailles, c'est une étape des engagements. On s'engage. Et dans ce cas, présentement, ce que nous voyons, la fiancée, le fiancé s'engage qu'on veut aller au mariage. Et pour célébrer le mariage, il y a des étapes. Premièrement, les fiancés viennent voir leur autorité religieuse, c'est souvent le pasteur ou bien l'abbé, pour montrer leur degré ou si vous voulez leur avis de célébrer leur mariage. Et la date est fixée. Mais ça ne commence pas par l'engagement au niveau de l'Église. Ça commence par l'engagement au niveau des autorités religieuses du pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les deux fiancés doivent se marier légalement d'abord à la mairie. Et avec ce certificat de mariage, le pasteur ou bien le prêtre qui doit célébrer le mariage au niveau de l'Église, le mariage religieux, voit le certificat de mariage qui a été donné par la mairie. Pourquoi le prêtre ou bien le pasteur doit voir ça? C'est pour se rassurer que les deux ont, si je dis les deux, je parle des fiancés, ils ont signé la monogamie. Ils se sont engagés devant les autorités de l'État qu'ils seront unis dans les liens du mariage jusqu'à ce que la mort les sépare. Il n'y aura pas une deuxième épouse. Donc, cet engagement étant acquis avec ce certificat de mariage, maintenant le prêtre ou le pasteur est habilité à la date fixée d'un commun accord avec les fiancés, leurs parents, de célébrer le mariage à l'église. Et vous êtes désormais un, vous n'êtes plus deux.
Est-ce que cette étape est valable pour deux personnes de religions différentes?
Il y a beaucoup d'églises évangéliques et protestantes du Mali qui ont ça dans leur statut et règlement que pour marier deux personnes, un homme, une femme, dans l'église, il faut que les deux aient la même confession de foi. Les deux aient les mêmes fondements de la foi, sinon vous ne pouvez pas prêter serment, vous ne pouvez pas vous engager devant Dieu et devant l'église. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas la même étape, parce que la plupart des églises évangéliques protestantes du Mali, je veux dire, ne célèbrent pas le mariage qui se fait entre un chrétien ou bien une chrétienne et puis un non-chrétien ou bien une non-chrétienne. Ils ne célèbrent pas ça dans l'église parce que les deux ne peuvent pas s'engager comme ça dans l'église. Étant donné cela, souvent ils font des bénédictions à la maison, mais pas dans l'église, devant Dieu et devant les témoins. Même si c'est deux protestants, une protestante et un protestant qui se marient dans l'église, l'église, il y a des conditions à remplir. Par exemple, si vous avez eu des enfants, un enfant ensemble déjà avant le mariage, ce mariage n'est pas célébré dans l'enceinte de l'église. Ça peut être dans un centre que vous aurez choisi, le couple aura choisi, mais ce n'est pas même dans l'enceinte de l'église, à plus forte raison dans l'église. Mais si l'un d'entre vous est tombé dans un péché sexuel, a eu un enfant avec une autre personne, ça a été confessé, la punition a été épongée, et puis voilà, vous avez arriver au mariage avec une autre personne différente de la personne avec laquelle vous avez eu l'enfant. Bon, souvent, le mariage est célébré dans l'enceinte de l'église.
Et quand il s'agit de deux chrétiens, mais l'un est protestant, l'autre est catholique, comment le mariage se déroule?
Généralement, c'est à la maison. Si vous voyez que quelqu'un célèbre ça à l'église, je dois le dire que les églises n'ont pas les mêmes règlements. Et je dois vous dire, l'église dont je suis le président du Conseil national, on ne célèbre pas ce mariage dans l'église. Parce que vous ne pouvez pas prendre les mêmes engagements, étant donné que vous n'avez pas, vous avez des différences de fondement de votre foi. Donc vous n'avez pas les mêmes règles. Donc c'est pourquoi l'église dont je suis le président du conseil, on ne célèbre pas un tel mariage dans l'église. Parce que quand vous prenez des engagements comme ça, l'un est protestant, l'autre est catholique, ce serait de l'hypocrisie parce que l'autre croit quelque chose, toi tu ne crois pas cela. Ben, il y a des églises qui le font.
Pour résumer ce que le pasteur Soriba Joseph Keita vient de le dire, pour se marier dans la foi chrétienne, il y a des étapes à suivre et le mariage entre religion également, chrétien, musulman, c'est pas permis. Et il faudrait, parce que les fois ne sont pas les mêmes. Est-ce que ces traditions et ces règles établies par les traditions et les religions peuvent-elles avoir des impacts sur le mariage d'aujourd'hui au Moutouré?
Par rapport à cette question, j'estime que les questions religieuses relèvent de la foi et de la religion de tout un chacun. Comme il l'a dit, ils ont leurs propres règles. Et je pense que étant musulmane aussi, nous avons nos propres règles et nos propres conceptions par rapport aux questions de mariage. Mais par rapport aux questions de tradition, par contre, il y a beaucoup de traditions qui compliquent parfois les mariages, sinon qui peuvent même amener jusqu'au divorce les deux conjoints. Du coup, côté tradition, il y a beaucoup de côtés positifs. Il y a aussi des côtés négatifs qui sont vraiment à revoir pour qu'on puisse au moins ça perdurer dans un mariage. Oui.
Amadou Diadji Sango, êtes-vous d'avis avec ce que le pasteur vient de dire?
Bon, le pasteur, il a parlé de sa religion qu'il connaît bien et qu'il maîtrise. Mais moi, ma religion musulmane me dit que je peux épouser une chrétienne. Et ma religion est très tolérante. La raison, c'est qu'avec la pratique et la vie de couple, je peux la convaincre pour lui expliquer tous les jours, mais ne permet pas le contraire. C'est l'homme qui peut épouser une chrétienne, pas le contraire.
Et pourquoi? Est-ce que ce n'est pas permis dans l'islam?
Non, ce n'est pas permis.
Et pourquoi? Il y a quelque chose qui l'explique?
Non, c'est parce que la religion musulmane, on cherche... L'objectif de la religion musulmane, c'est que le monde soit stable. Pour que le monde soit stable, il faut qu'on ait les mêmes confessions. Pas forcément, mais en général. Si vous, il y a ma femme qui est chrétienne, l'islam n'interdit pas. Mais si moi, je suis, ma femme, elle est musulmane, moi, je suis chrétien, les enfants seront quoi? Ça dépend. Ou bien?
Ça dépend quand même des religions, je ne sais pas.
Exactement. Les enfants vont suivre quelle religion? Ils vont suivre quelle religion? Parce que c'est l'homme qui est le chef de famille. Dans la plupart des cas, les enfants seront chrétiens. Raison pour laquelle l'islam n'autorise pas à ce qu'une femme musulmane soit mariée.
Je voudrais relever quelque chose.
Un chrétien.
Oui, je voudrais juste faire un feedback et relever quelque chose sur Singa. Kamusu Singa. C'est une pratique de chez nous, mais qui obéit d'abord à tous les principes, à tous les principes religieux. Quand est-ce qu'il y a Singa? Ça veut dire que les deux côtés se sont manifestés positivement. Ça veut dire qu'on a payé la dot. Mais il arrive que l'une ou l'autre des familles ne soit pas prête pour faire une grande bombance, un mariage avec, où on appelle les parents, les amis, etc., à cause de contraintes socioculturelles, etc. À ce moment-là, par exemple, devant la situation qui va arriver tout de suite au mois de carême, tu es tombé d'accord, tu as payé ta dot, on a célébré ton mariage religieux, mais la femme n'a pas encore transféré parce que les femmes, Ouma Moussoukounko, Ouma Tlingeke, etc., etc. Mais pour sursoir à ça, on te donne la femme en attendant qu'on se prépare. C'est ça qu'on appelle Singa. Mais il n'est pas en porte-à-faux avec les principes socioculturels et religieux. Et il faut vraiment relever quelque chose de très important. On a deux niveaux. Une société où on ne part pas à la mairie parce qu'on ne connaît pas la mairie, où il n'y a pas d'acte de mariage, on ne peut pas me dire que tant que l'officier d'état civil n'a pas déclaré les gens unis par le lien de mariage, il n'y a pas mariage. Non.
Le mariage. Alors, ceci m'amène à poser cette question à Mariamina Kanouti. Est-ce que les conditions du mariage déterminent la durée des foyers de nos jours?
Oui, ça peut beaucoup jouer. Parce que, vous savez, traditionnellement, normalement, les couples étaient préparés. Les couples étaient préparés, la jeune fille était préparée du côté de sa maman, ses tantes. On lui donnait des valeurs du mariage. Le jeune homme aussi était préparé. Il y a même certaines de nos cultures ici où le jeune homme avait aussi quelqu'un dans la chambre nuptiale comme la fille. Donc aujourd'hui, ces choses-là ont sauté. Aujourd'hui, les gens arrivent au mariage beaucoup plus vite, avec moins de préparation. On sait que côté religieux aussi, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas énormément d'institutions. Ça commence à venir. Je crois que j'ai vu cette année des gens qui ont essayé de mettre en place une institution pour accompagner les mariés. Je sais que chez les catholiques, ça a toujours existé. Je crois qu'ils font pendant 2 mois ou 3 mois un peu de préparation. Mais j'estime que c'est des étapes qui permettent aux mariés de comprendre ce que c'est que le mariage, de partager les valeurs commune et de bâtir quelque chose de plus solide. Si ces étapes sont brûlées, forcément, les mariés ont moins de chances. Je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi des personnes, des coachs, par exemple, de vie, de couple, qui peuvent également aider.
Mais en tant que coach de vie, quand est-ce que les gens viennent vous consulter?
En général, les gens viennent consulter des coachs et des conseillers conjugaux quand ça ne va pas. Alors que l'idéal serait qu'ils le fassent avant même de se marier. L'une des raisons pour lesquelles, moi je sais que le coaching de couple, je n'en fais pas beaucoup, mais j'en fais quand même. Et j'estime que l'erreur vient parfois du départ. C'est-à-dire que les gens se choisissent pour les mauvaises raisons. Parce qu'ils ne partagent pas forcément les mêmes valeurs, ils n'ont pas du tout la même éducation, ils n'ont pas de valeurs communes. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'on est dans une société où le matériel joue beaucoup. Si le monsieur, il arrive, il demande la main d'une fille, il peut ne pas avoir la même éducation qu'elle, mais elle est contente de partir parce qu'elle aura une nouvelle voiture, on va la mettre dans une grande maison. Ça, c'est des mariages qui souvent échouent avant d'avoir commencé. Donc pour moi, c'est d'abord de bâtir quelque chose de solide ensemble, de regarder si nous avons les mêmes valeurs. Dans nos cultures, ça existait, mais ça se faisait par les parents. Les parents faisaient des enquêtes pour voir est-ce que ces gens-là et nous avons la même éducation, nous avons les mêmes valeurs.
Donc, à côté de ces mariages souhaités par les différents conjoints, on a également le mariage arrangé. Entre ces deux styles de mariage, qu'est-ce qui dure plus longtemps au monde, dans vos remarques en tant que leader féminin? Qu'est-ce qui dure maintenant?
Je dirais que les mariages, c'est plus une question de choix que des mariages arrangés. Certes, les mariages arrangés, ça a toujours existé. Et avant, ça marchait beaucoup parce que c'était sur des principes, en fait, des valeurs que l'on partageait, comme elle vient de les dire. C'était pas deux jeunes qui se mariaient, c'était toute une famille qui se mariait entre eux. Les mariages étaient arrangés et ils étaient coachés bien avant et ça allait. Mais de nos jours, même si un mariage est arrangé, il n'y a pas de coaching derrière. C'est limite par force que les gens se marient. La femme n'aime pas son mari. Les maris n'aiment pas la femme. Déjà, vous n'êtes pas obligé de vous aimer dans un mariage. La société, elle l'a faite comme ça. Mais pour se supporter, il faut quand même s'aimer un peu, en fait. Et les gens ont l'habitude de dire, ah oui, ça devrait aller avec le temps. Les gens vont finir par s'aimer avec le temps. Sauf que l'amour, ça ne vient pas comme ça, tout d'un coup, en un claquement des doigts. Actuellement, on a pour habitude de choisir nos maris, de choisir nos femmes. Oui, il y a beaucoup de mariages qui finissent par les divorces. Il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de mariages qui marchent. Mais ça part sur des bases solides, comme elle l'a dit. Il faut apprendre aux jeunes à communiquer. Un jeune couple, s'il n'y a pas de communication, ça ne va pas marcher. Il faut apprendre à se supporter. Parce que tu as beau aimer quelqu'un, tu as beau le comprendre, vous partagez les mêmes valeurs. La cohabitation ensemble va faire en sorte que vous vous détestez. Parce que ce n'est pas facile d'accepter l'autre, de cohabiter avec la personne, de se réveiller, de faire la cuisine, de faire la vaisselle, de faire les ménages, de cohabiter avec sa famille. C'est tellement difficile qu'il y a... Nos plupart des mariages de la veille du Ramadan ne tiennent quasiment pas. Après la fête, c'est fini pour la plupart du temps.
Est-ce à dire que l'abandon de certaines valeurs culturelles et traditionnelles, c'est ce qui pousse généralement au divorce, Imam Diallo ?
Au fait, ce qu'il faut savoir, c'est que madame vient de dire tout de suite, l'accompagnement des mariés. Vous savez, l'islam le dit, l'islam l'a dit depuis 1400 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qui marier d'abord. Les choix, c'est tellement important. Toi, tu ne peux pas te permettre de marier n'importe qui. Tonton Sango, c'est un grand intellectuel, c'est un homme de caste, c'est une grande personnalité. Il ne peut pas marier n'importe qui parce que lui, il a besoin des conseils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit on peut marier une femme pour quatre choses. Comme madame l'a dit tout de suite, vous pouvez marier une femme parce qu'elle est riche. C'est permis. Vous pouvez la marier parce qu'elle est belle. C'est possible. Vous pouvez la marier parce qu'elle vient d'une grande famille à cause de sa lignée. Et vous pouvez la marier parce qu'elle est pieuse. Ah, ça, c'est une grande femme musulmane. Ah, ça, vraiment, elle est impeccable. Elle obéit aux ordres d'Allah. Voilà. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Fazfar bizati din tarbat yadak. » Il faut choisir la femme pieuse. Vous ne serez pas déçu.
Vous êtes de cet avis. Choisissez la femme pieuse. Vous ne serez pas déçu. Est-ce que cela peut éviter des divorces?
Moi, je puis affaire d'impatience parce que j'entends des choses extraordinaires. En fait, le mariage a été déplacé de son cadre et aujourd'hui, il subit tous les désastres. Le mariage est une chose de l'intérieur qui se débat à l'intérieur d'une famille, d'un conseil de famille et souvent sous l'arbre à palabres. Maintenant, monsieur qui a beaucoup d'argent... regarde et choisit la femme pour ses atouts physiques ou pour etc. Et avec son argent, il vient l'imposer à ses parents. La fille qui a beaucoup d'argent ou qui a beaucoup d'atouts physiques se choisit son mari et aujourd'hui, et monsieur et madame rentrent à la maison avec leur mari ou avec leur femme. Ce n'est pas la famille qui a choisi, c'est l'argent qui a choisi. C'est les formes et les performances physiques de l'autre qui ont choisi. Donc ça va échouer obligatoirement parce que ça ne correspond absolument à aucune valeur. Ça ne repose sur rien. Quand tu vas demander la main de quelqu'un en mariage, on ne te demande pas quel est son niveau de religion, de quelle famille vient-il, quels sont ses caractères. Mais on te dit abruptement « Abou Mbaraké ».« Abou Mbaraké ». On se marie à sa situation.
Et c'est ce qui expliquerait...
Ceci explique cela.
Les divorces.
Ceci explique cela. Hier, c'est deux familles qui se mariaient. Et madame a touché un peu la chose. Le coaching se fait depuis la base dans la société traditionnelle. La femme est préparée. Tu es notre ambassadrice. Tu représentes les valeurs de notre famille. À peine tu fais... une mauvaise chose, la honte réjaillit sur toute la famille. Tu auras un nouveau père, tu auras une nouvelle mère, tu auras une nouvelle famille, de nouveaux comportements. La femme est coachée, elle est encadrée. Et l'homme, que ce soit ses oncles ou ses camarades d'âge, lui disent « Ce qui n'a jamais été fait avant toi ne te sera pas permis. » Une femme n'est pas un objet. Une femme n'est pas un tambour. Une femme, ça se tresse avec honneur et respect. Etc. Il est coaché. Et le jour du mariage, pour la plupart des cas, dans la société traditionnelle, tu peux par hasard connaître ta femme, mais tu n'es pas obligé de la connaître.
vous vous découvrez dans la chambre nuptiale. Et le principe fondamental, madame l'a dit, elle, c'est l'habitude de vivre qui est plus fort que l'amour. Aujourd'hui, vous vous aimez dehors. Hier, on met entre vous l'habitude de vivre et accompagné et encadré par les deux familles. Mieux, le jeune couple est toujours assisté d'une vieille personne dans la maison pour calmer les ardeurs des jeunes. Quand la femme veut se révolter, elle regarde la vieille qui est là. Elle recule. Quand monsieur veut faire les conneries, il regarde la vieille, il s'en va jusqu'à leur premier enfant. Et le premier enfant va devenir leur nouveau centre d'intérêt autour duquel ils se réunissent et se retrouvent. Le mariage n'est pas une chose de dehors, c'est une chose de dedans.
Est-ce le fait qu'un couple ait déjà vécu ensemble pendant longtemps avant de se marier un point positif ou un négatif pour la vie du couple, Ina?
Bon, je ne pense pas que ce soit forcément lié. J'ai vu des gens qui sont restés ensemble dehors longtemps et qui n'ont pas résisté quand ils se sont mariés. J'ai vu aussi des personnes qui ne se connaissaient pas longtemps, qui se sont mariées vite. Et ce qu'ils disent, tout est une question de préparation. Est-ce qu'ils ont été accompagnés? Est-ce que les gens ont su aussi comment choisir des conjoints? Parce qu'il y en a qui restent ensemble, mais ils sont tout le temps en train de se bagarrer. Ils ne cherchent pas à se connaître. Est-ce que... Je dis surtout, la base du mariage, c'est les valeurs. Est-ce que nous partageons les mêmes valeurs? Je me rappelle un séminaire qu'on avait organisé sur les couples. Il y avait une trentaine de femmes qui m'avaient invité, qui voulaient qu'on fasse un coaching de couple. On a passé la journée et ce qui m'a frappé ce jour-là, c'était que tous les cas qui se disaient ce jour-là, et on sentait en fait que les femmes s'étaient mariées à des personnes avec qui elles ne devraient pas être mariées. Il y a une, par exemple, qui était une grande dame d'un certain niveau intellectuel, qui travaillait et tout, et qui se faisait insulter dans son travail par son mari, qui venait au bureau et qui l'insultait. En fait, elle s'est retrouvée avec le monsieur simplement parce qu'il est très riche, mais avec vraiment pas la même éducation. Et je me rappelle ce jour-là, c'est le jour où j'avais décidé moi-même d'arrêter pratiquement le coaching de couple. Parce que j'ai compris qu'il faut qu'on prépare les jeunes filles avant, et peut-être aussi les jeunes hommes, qui sachent comment faire le bon choix. Parce que j'arrivais à un moment où c'était déjà compliqué. Quand on construit une maison, c'est les soubassements. Quand la maison s'écroule, moi je regarde où sont les soubassements, comment on reconstruit dessus. Tu m'amènes une maison sans soubassement, je ne sais pas comment je vais la réparer.
Est-ce que des facteurs exogènes, comme par exemple des mésententes avec la belle famille, peuvent pousser aujourd'hui un couple à se divorcer?
Djana.
Ah bon, Omo?
Oui.
Explique-nous.
En fait, les mariages, comme Seydou Badian l'a dit dans son livre Sous l'orage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Il ne faut même pas qu'on va se mentir là-dessus. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est plus une question de maturité, en fait. Des préparations psychologiques, parce qu'à un moment donné, ça va être dur. Et quand ça va être dur, il faudrait avancer. Et c'est en ces moments-là que tu peux soit tout remettre en question et partir, soit communiquer, discuter et rester. Parce que la belle famille, c'est une autre famille. Tu n'as pas été élevé, vous ne partagez pas forcément les mêmes valeurs, vous n'êtes pas forcément pareil. C'est une autre famille que tu vas apprendre à connaître, mais tu es déjà plus grande. Tu as quitté une famille. Là-bas, par exemple, tu vas voir que tu te réveilles à 6 heures du matin. Si ta belle famille se réveille à 5 heures du matin, il va falloir apprendre. Si tu n'arrives pas à apprendre, il y a un problème. Et ces problèmes, il va falloir les régler. Moi, je reproche surtout au couple, mais aussi à l'entourage du couple, cette facilité de négliger les problèmes. Comme elle l'a dit, on néglige les problèmes, on remet à demain ce qu'on doit régler aujourd'hui. Par exemple, il y a un problème aujourd'hui. Si tu ne supportes pas que ton mari rentre, par exemple, à 21h, asseyez-vous, discutez, trouvez un compromis. Mais n'attends pas qu'il y ait une goutte d'eau qui déborde la vase. Si ta belle-mère te fait des reproches sans fin, asseyez-vous, discutez et trouvez une solution. Parce qu'à un moment donné, je suis sûre, ça va péter. Parce que c'est censé être une cohabitation à vie. À vie. Et le couple, c'est surtout... Oui, c'est vrai que les deux familles se marient.
Mais la couple... belle famille, on dit souvent, quand on se marie, les deux familles se lient également.
Oui, mais la plupart du temps, la fille qui vient n'est pas forcément adoptée par la belle famille. Il faut le dire aussi. Tu n'es pas forcément adoptée par la belle famille. La plupart du temps, les mamans aussi ne sont pas les problèmes. Les mamans ne sont pas les problèmes. La fille qui vient doit du respect à sa maman. Oui, certes, son fils t'a épousé, mais c'est sa maman aussi. S'il n'avait, elle n'avait pas mis son fils au monde, tu ne l'aurais pas vu. Il y a aussi la maman qui doit aussi apprendre à aimer la fille d'autrui. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse à ta fille dehors, il ne faut pas le faire parce que c'est l'enfant de quelqu'un aussi. Entre les deux, il y a les belles filles, les belles sœurs. C'est eux, en fait, qui sont entre les deux. La plupart du temps, c'est les belles sœurs les problèmes. Parce que à force, la maman va écouter sa fille, ne va pas comprendre sa belle-fille, et le mari va être entre les deux, entre les marteaux et l'enclume. Et ça peut pourrir la vie de l'homme, en fait. Ça peut détruire son mental. Ça peut carrément mettre fin à un mariage, quoi. Et la plupart du temps, tout le monde a un problème avec sa belle-famille, à un moment donné.
Imam Hamidou Diallo, quand est-ce que dans l'islam, on cautionne le divorce?
C'est le dernier recours. Le dernier recours. Ce que Dieu a autorisé...
Même quand on te violente, on te bat, on te fait...
Non. Il y a pas... Au fait, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il faut qu'on connaisse notre religion. La religion musulmane ne te permet pas, si tu es en colère, comment gérer ça? L'islam a tout dit, toutes les étapes, depuis bien avant le choix, depuis bien avant... Et que tu décides même de te marier, l'islam a tout évoqué. Il n'y a pas de violence. Le mari, comment tu peux... Tu vas chercher la fille des gens et puis tu viens la frapper chez toi? Est-ce que ça, c'est un homme, ça? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple. Il n'a jamais insulté ses épouses. Il ne les a jamais battues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent il s'est disputé avec ses épouses. Et notre sainte mère Aïcha, la fille d'Abu Bakr Siddiq, un jour, Aïcha s'est disputée avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Et quand Abu Bakr est venu, le prophète a dit, voilà, ton père est là, il va nous départager. Donc il faut expliquer. Le prophète a dit, attends Aïcha, moi je vais expliquer le problème. Aïcha a dit non, prophète, c'est moi la première qui va expliquer. Donc il s'est un peu chamaillé là-bas et Abu Bakr s'est levé voulant frapper Aïcha. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, mais toi tu es un arbitre ou bien tu es venu pour frapper ma femme? Tu viens frapper ma femme jusque chez moi? Regardez comment le prophète gérait sallallahu alayhi wa sallam ces conflits. Donc il faut connaître en profondeur ce que le prophète nous a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam, et on aura la paix. Il n'y aura pas de divorce.
Mariamina Kanouté, dans votre travail de coach de tous les jours, quels sont les problèmes qu'on vous ramène souvent et qui amènent à l'éclatement des couples?
Bon, il y a les problèmes de communication. Comme elle le disait tout à l'heure, les couples ont beaucoup de peine à communiquer de manière sincère. Donc souvent c'est les femmes qui se plaignent qu'elles veulent discuter, le mari ne discute pas. Donc on a beaucoup de ces retours-là. Ça c'est le premier, le plus gros problème. Ensuite, il y a des problèmes dehors, hein, les problèmes qu'on va appeler les problèmes de Tisa. Donc mon mari voit une fille, donc tous les problèmes liés à l'infidélité, ça vient beaucoup aussi. Ensuite la belle famille, c'est assez récurrent également. Tout ce qui est lié à la belle famille. Mais j'estime que tous les autres problèmes découlent du problème de communication. Parce que ce soit les problèmes de femmes dehors, que ce soit les problèmes de couple, moi je pense que le monde moderne est peut-être aussi un peu victime d'aller à deux vitesses. Aujourd'hui, on a des femmes qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'épanouir financièrement, qui ont envie d'être heureuses. Le mariage traditionnellement dit à la femme de supporter Kamoun. Voilà, c'est pas faux. Et nous, depuis toute petite, on nous a appris toutes à comment bien s'occuper d'un mari. Mais les hommes, aujourd'hui, cette tradition, comme M. Sango le disait, ne perdure pas du côté des hommes, ça perdure du côté des femmes toujours. Donc ils arrivent au mariage, ils ne savent pas comment faire pour garder une femme. Ils ne savent pas comment on gère une femme. Pour lui, pour la majorité des hommes, et j'entends beaucoup ce discours, elle a tout ce qu'elle veut. Donc, elle a une maison, il y a le nasongo, qu'est-ce qu'elle cherche encore? Alors que aujourd'hui, quand on soit réaliste, on a vu la pyramide de Maslow. On a envie d'abord de manger les besoins physiologiques, ensuite les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance. Quand tout ça est plein, qu'est-ce qu'on veut ? On veut s'épanouir et se réaliser. Donc, légitimement, aujourd'hui, les femmes ont aussi envie de s'épanouir dans le mariage. Elles ne veulent pas juste être dans un mariage pour supporter. Donc, si un homme aussi a envie de garder sa femme, autant la femme peut faire un effort de ce côté, le monsieur aussi doit savoir comment je fais pour amener ma femme à s'épanouir et à se réaliser. Ça, c'est la partie du film qu'on n'arrive pas à voir encore avec nos hommes africains qui pensent qu'ils peuvent prendre leur femme comme leur grand-mère, alors qu'eux, ils ne font pas comme leur grand-père. Ça,
dans
c'est
cette
un problème.
Partie de film, vous l'avez touché également du doigt. On dit souvent en bambara, Mounio anisabali, Moussokanga Mounio Moussokanga Sabali. Autrement dit, l'endurance. Est-ce que cette endurance peut être une solution aujourd'hui, Sango, pour éviter les divorces?
Qu'est-ce que je dois dire? Il y a des concepts traditionnels qu'on a liés, on a affectés à la femme Mounio Nisabali. Mm-hmm. Comme si elle est née ou elle est destinée à ça. Mais pourquoi tu lui fais du mal et tu vas l'obliger Mounio Nisabali? Mais pourquoi? Je suis féministe sur la question. La femme, ça se traite avec honneur, respect et dignité. Ce que tu n'admets pas, tu ne peux pas lui faire ça. Elle a fait une analyse, elle n'a pas renversé l'analyse. Il y a des problèmes de dehors quand ton mari voit des jeunes filles. Mais pourquoi, quand tu soupçonnes ta femme de voir un homme, pourquoi ça va, la case va brûler immédiatement? Bon, c'est des questions d'éducation, des questions de concept et des questions de milieu. Vous savez, Mariam, je crois que et les féministes et les défenseurs des droits des femmes et les défenseurs des droits de l'homme doivent se retrouver pour repenser cet aspect du film. Nous sommes à la croisée de deux chemins. L'école européenne a réussi à nous chasser de chez nous et de nos valeurs, nous imposer des valeurs et des vertus. Nous regardons notre société avec les yeux de l'autre. Nous regardons notre société avec les yeux de l'autre. Ça fait donc le conflit souvent avec les beaux-parents. Ça fait des conflits avec la société. La traditionnelle, la femme ne travaillait pas dans un bureau, n'avait pas de revenus proprement déclarés. Même si elle avait des revenus qui lui étaient reconnus. Tous les produits du jardinage, du potager, de toutes ces activités sont des revenus qui lui étaient reconnus. Mais qu'elle ait un statut de fonctionnaire où elle sort le matin au même rythme que l'homme, etc. Pour la société traditionnelle, c'est un phénomène inconnu. Il faut le repenser. Et amener, les gens ne sont pas réticents, il faut communiquer, il faut les éduquer à ça, il faut leur montrer la nouvelle face de la société. La société moderne est essentiellement basée sur le matériel. La réussite, elle a parlé d'épanouissement. On lie cet épanouissement-là à l'argent. Malheureusement, non. Et c'est ça qui fait qu'il y a toujours des crashs. L'homme qui était riche perd sa situation, il perd aussi son foyer et son équilibre. Les gens n'étaient pas préparés. La femme qui avait les moyens, elle supportait son mari, elle subvenait aux besoins de son mari, elle perd sa situation ou elle change de comportement, la famille éclate. Donc il y a un véritable problème de fond sur les valeurs cardinales et les dignités ancestrales. J'ai dit revenir à nos valeurs cardinales et nos dignités ancestrales qui sont antérieures et à l'islam et au christianisme. Nous avons notre société avec ses propres valeurs. Et je dis, il faut revenir à ça et repenser cet aspect du film.
Du point de vue de l'islam, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui qu'il y a plus de divorces qu'auparavant? Il y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? La religion a été mal interprétée, mm-hmm. ou on n'applique pas les règles selon la religion?
Vous savez, Mariam, il y a beaucoup de causes. Ici, pour ne pas quitter la question de maturité, aujourd'hui, on se retrouve dans le foyer, franchement, on n'est pas mature. Franchement, on n'est pas mature. Madame avait évoqué aussi un point, les péchés du mariage. On connaît tout avant le mariage. Et là, c'est difficile qu'après le mariage, qu'est-ce qui est nouveau maintenant? Ça, c'est pas permis. Je ne voulais pas l'interrompre, mais c'est pas permis par la religion musulmane. Avant d'être marié, tu ne peux pas être seul avec ta fiancée. L'islam n'autorise pas ça. Après les fiançailles, aujourd'hui, on n'est même pas fiancé. On part chercher notre copine chez ses parents. Mais Sangou est là. Maintenant, comme les prêcheurs disent, bois Sarah. Bois est à la maison, mais bois Sarah. Avant, c'est ou bien s'arrêter dans la rue avec ta copine. Mais ce sont des choses qui sont nées aujourd'hui. Mais comment on va maîtriser ça? La religion, si on connaît aujourd'hui notre religion, wallah, je vous assure, je vous mets en défi, quiconque, quelqu'un qui connaît très bien sa religion, qui imite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme l'islam nous a dit de l'imiter. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Le prophète, le Coran nous dit wa ashiruhunna bil ma'ruf. Comment traiter sa femme avec bonté, avec douceur. Musubi negendi. On ne la violente pas. Comment il n'y a pas question de divorce. Le prophète nous a
tout. Omouture, est-ce que vous êtes d'avis? Il vient de dire on connaît tout avant le mariage. Est-ce le fait de se connaître, de vivre ensemble avant qu'on ne se marie est un frein aujourd'hui au mariage?
Ça dépend en fait. Comme il l'a dit, ça dépend parce que la société malienne, bien que traditionnaliste, déjà ne les permet pas. Par exemple, chez nous, ce n'est pas possible de les faire. Pareil pour l'islam. Mais on est à l'ère de modernisation. On est entre deux mondes. Il y a les mondes, oui. Trois mondes, elle a dit. Traditionnel et les mondes modernes, voilà. On est entre ces trois mondes, elle a dit. Elle a bien dit les mondes arabes, les mondes traditionnels et les mondes modernes, en fait. Et les modernes, dans ça, il y a des gens qui vont toujours se connaître, qui vont sortir ensemble avant les mariages, mais ce n'est pas permis par la tradition, ce n'est pas permis par l'islam, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour autant qu'on doit se marier et que les mariages ne marchent pas. Moi, j'ai dit qu'il y a des conditions, comme on l'a dit depuis bien avant, je pense qu'on est en train de revenir sur les mêmes choses. Il y a des valeurs. Les mariages, ça partait sur des principes. Parfois, tu as envie de divorcer, tu penses à tes parents, tu ne peux pas divorcer. Il a parlé d'un truc que moi, je ne vois pas, par contre, et je pense qu'Ina l'a dit, c'est surtout par rapport aux questions des préparations de l'homme. On prépare la femme, on dit à la femme, il faudrait que tu apprennes à la soumission, à être passive, la passivité et tout. Mais on n'apprend rien au garçon. Limite, on lui dit... Oui, limite, on lui dit... C'est comme ça qu'on forme les hommes, en fait. C'est un peu comme si on venait sur un site où il fallait se boxer. Oui, l'adversité et tout. Tu mets une femme dans une maison, tu lui dis qu'elle a tout, elle a besoin de quoi, mais elle a besoin de son mari. Si tu n'es pas là, ce n'est pas une maison vide qui va éduquer tes enfants. Une maison vide ne va pas éduquer ta femme. Il faudrait qu'on apprenne les mêmes principes qu'on est en train d'apprendre aux filles, aux garçons aussi.
Alors, quand on parle,
on parle par exemple des cohabitations avant les mariages, c'est garçon de quelqu'un qui va chercher fille de quelqu'un. Si les parents disaient aux garçons, on ne va pas chercher enfant de quelqu'un, on n'en serait pas là aujourd'hui, on n'aurait même pas cette discussion. Si les hommes s'y respectaient comme avant, s'ils étaient comme nos grands-pères, on n'en serait pas là, on n'aurait même pas tenu ces discours.
Les deux dernières questions que je vais vous poser, c'est de savoir où allons-nous aujourd'hui avec les mariages au Mali et que faut-il aujourd'hui pour améliorer les relations des conjoints. Sangou, je commence par vous.
Nous avions déjà dit quelque chose en off, je reviens. Mm-hmm. La mairie jouxte le commissariat de police et le palais de justice. Dans toutes les communes de Bamako, c'est comme ça que c'est construit. On se marie, on fait des histoires, on vient à la police et on va divorcer à la justice.
Vous pensez que c'est parce que ces trois endroits sont juxtaposés qui amènent
ça? Non, ce n'est pas parce qu'ils sont juxtaposés, on s'est facilité la tâche. Ce sont des mariages qui sont conçus dehors et puis on les liquide rapidement. Et pour revenir à une société équilibrée, Mariam, il faut revenir à nos vertus et à nos valeurs. Nos vertus, c'est que le mariage, c'est une rencontre de deux familles pour stabiliser la société. À l'intérieur, il y a beaucoup de problèmes. Il faut qu'on se donne les moyens de les calmer, de les aplanir.
Merci, Sango. Imam Diallo, que faut-il aujourd'hui pour améliorer les relations des conjoints?
Aujourd'hui, moi, je dirais juste deux choses. Aimons-nous pour Dieu. Moi, je vous ai vu, franchement, vous êtes une croyante, vous êtes pieuse. Franchement, je veux me marier avec vous. Et non, parce que vous êtes bien habillée, elle est élégante, elle est éloquente. Ce sont des choses que ça ne dure pas.
Et que faut-il faire au Mouturé pour qu'on vive en harmonie dans nos foyers?
Il faudrait déjà commencer à discuter, à se comprendre. Il faudrait aussi que les hommes ne prennent pas que les côtés positifs de l'islam, de leur religion, qu'ils prennent les deux, les côtés positifs et les côtés négatifs. Il ne faut pas détourner la religion, surtout musulmane, il l'a dit.
Mariam Ina Kanouté, que faut-il faire aujourd'hui pour améliorer la relation entre conjoints?
Franchement, moi j'ai pris le pari de prendre des filles moins âgées, entre 15 et 18 ans, de faire des camps d'éducation où je leur apprends c'est quoi les valeurs. Pour moi, la société malienne aujourd'hui est malade d'avoir perdu toutes les valeurs. Et je crois que la meilleure façon, c'est de préparer la prochaine génération. Et c'est ce que je fais tous les jours. Avec des étudiants, avec des étudiantes, avec des jeunes filles, qu'elles comprennent pourquoi faire le choix, comment faire le choix, quelles sont mes valeurs. Et quelles sont les personnes avec lesquelles je vais partager les mêmes valeurs? Je crois que le choix est fait avant et pas.
Préparer les futures générations au mariage de demain. Et c'est sur cette note qu'on va refermer ce grand dialogue de Studio Tamani, réalisé en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. Merci à nos invités, Amadou Diadje Sango, homme de culture, Mariam Ina Kanouté, conseillère conjugale, Oumou Touré, coordinatrice dans The Global Media Company to NFG. Une cellule qui lutte contre les mutilations génitales féminines, et l'imam Hamidou Diallo. Moi, je suis Mariam Maïga. À la présentation, Mamadou Ouattara était à la mise en onde. Régie vidéo, Mamadou Keïta. Coordination, Mouhamadou Touré. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halou Gmangi.
Chien Nibiri. Sigi Kafoba.